Vior et ses trésors, l'histoire d'une passion, une émission proposée par Virginie Pendariès. Jean-Paul Assemat est un passionné de la vallée du Vior. Il est à la fois animateur de randonnée et conteur, et s'investit au sein de la communauté de communes du Ségala-Carmozin pour promouvoir, à sa manière, cette vallée qui lui est chère. Il nous raconte sa passion. Alors Jean-Paul Assemat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un accro de la vallée du Vior.
Tout à fait, depuis très longtemps.
Oui, et alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu cette histoire d'amour. Comment elle a débuté?
Ah, il y a très longtemps, une après-midi d'automne, je décidais d'aller y faire quelques pas. Il y a toujours des ambiances extraordinaires. L'été s'achève, l'air charrie à la fois des senteurs douces et lourdes et d'autres légères et fraîches qui annoncent l'automne. Les premiers arbres, tels le bouleau blanc, commencent à changer de couleur. Et je profitais de cette magnifique après-midi quand tout à coup, je sentis autour de moi comme un malaise. Je m'arrêtai, je m'assis sur une murette sans âge, à écouter la nature et à essayer de comprendre ce qui se passait. Quand tout à coup, je perçus comme un gémissement, comme une plainte, grave, sourde, mais réelle, et en quelques secondes, je compris. La vallée pleurait. La vallée me faisait part d'une immense tristesse que je ne compris pas. Et c'est là qu'elle me dit « Je me languis de l'homme ». En effet, la vallée du Vior, depuis la nuit des temps, avait protégé et nourri l'homme. Et depuis 200 ans, l'homme, petit à petit, l'avait quitté. Bien sûr, la nature avait repris le dessus et elle s'est parée d'un charme qu'elle avait relativement perdu. Mais la vallée se languissait de l'homme. Et c'est pour ça que je décidais de m'y promener, mais pas tout seul. Je m'y promène avec des amis. Et nous profitons de tout son savoir, de tout ce qui s'est passé dans cette belle vallée riche d'histoires passées, présentes et surtout à venir. Et un jour même que nous y promenions les élèves de la communauté des communes du Ségala-Carmozin, au milieu de ces petits qui riaient, qui explosaient de joie, j'entendis un rire qui ne m'était pas familier et j'ai compris que la vallée retrouvait du bonheur et nous le partageons ensemble.
Alors comment vous y prenez pour faire découvrir cette vallée du Vior?
Alors nous avons commencé à mettre en place des activités d'été qui durent au moins sur les 2 mois d'été. Tous les jeudis après-midi, j'anime bénévolement une balade comptée, à commencer par le pont de Ciroux, lieu de passage pendant tout le Moyen-Âge entre le Rouergue et l'Albigeois, sans oublier l'histoire de Boudou sur l'ermite et le coucou, qui vous donnera la signification du mont Ciroux, le château de Turiès, la Splanque, au lieu du Moyen-Âge, etc., etc., etc. Toute la vie des moulins, la vie des gens, la vie des vieux villages abandonnés, le vieux Mirandol, le vieux Tanus, les Infornats. Et nous faisons en sorte de terminer nos balades comptées chez des producteurs locaux, très compétents, avec beaucoup de savoir-faire, et qui nous font goûter des produits extraordinaires. Et ça, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. On l'agrémente de 3 randonnées semi-nocturnes dans le même style, qui finissent toujours par la dégustation d'un produit du terroir, après avoir promené et goûté les contes de soit de Jean Monod, soit de la Pépessou ou d'autres. Et tout le long de l'année, nous amenons notamment du département du Tarn, en premier lieu, des clubs de randonnée affiliés à la Fédération française de randonnée pédestre, qui viennent nous suivre pour des fêtes spéciales, comme la fête des châtaignes organisée par Vieux Vivant. Et nous venons de monter avec la commune de Jouqueville une offre sur 2 jours de balades et randonnées comptées pour les groupes extérieurs au département, avec accompagnement des randonnées, repas gastronomiques, coucher dans les gîtes de France, petit déjeuner, visite de producteurs, aménagé sur 2, 3, voire 4 jours, si le groupe le demande. Voilà comment nous essayons de dynamiser notre petit territoire.
Et partager la passion que vous avez de cette vallée.
Bien entendu.
Et alors, est-ce qu'elle est toujours intacte, cette passion? Est-ce qu'elle a évolué depuis 40 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé?
Si l'amour que je porte à la vallée n'a fait que croître, c'est aussi à cause du fait qu'au fil des ans, elle me raconte tout ce qu'elle a vécu. Et ce qu'elle n'a pas vu, le vent même le lui a raconté. Et donc, par le biais de certains auteurs, le dernier en date que je suis en train de lire, c'est M. Gérard Touzeau, qui a passé 10 ans de sa vie à faire des recherches historiques pour nous faire partager la fin du schisme des papes d'Avignon après la mort de Benoît XIII à Peñíscola en Espagne. Il nous parle de Jean Carrier, cardinal nommé par Benoît XIII, qui vivait dans la vallée du Viaur et qui a nommé lui-même Bernard Garnier Benoît XIV. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous en dire davantage.
Alors comment on en saura davantage?
Le 5 août, à la gare de Viaur, dans le cadre du festival Les Deux Rives, en début de soirée, j'aurai le plaisir de raconter, grâce à Gérard Touzeau, cette immense histoire qui débute en 1395 et qui se finit aux environs de 1460 dans le cadre du festival des Deux Rives à la gare de Viaur.
Alors le rendez-vous est pris.
Merci beaucoup, Virginie. La vallée, elle se vit. Plus vous la côtoierez, plus vous apprendrez des choses et plus vous l'aimerez.
La petite rivière, elle est toujours couchée. La petite rivière, elle peut pas se lever, pas se lever. Mais elle chante, toujours elle sourit, toujours contente. Elle passe en riant les heures lentes, tâchant de faire sans bouger, rien qu'à force de rêver. Des tourbillons, des frisolis qui mettent les rayons du soleil dans son lit, dans son lit, dans son lit. Ses parents sont des saules qui se penchent sur son courant. Ils ont sur les épaules un bout de ciel trop grand. Ils campent sur ces plages en rêvant qu'elle soit torrent, cascade de pluie, d'orage, aux filles du vent. la petite rivière. Elle est toujours couchée, toujours couchée. La petite rivière, elle peut pas se lever, pas se lever. Mais elle chante, mais elle chante. Toujours elle sourit, toujours contente. Elle apporte la vie à tant de plantes et tant d'oiseaux viennent chercher près d'elle de quoi s'envoler. Ses tourbillons, ses friselis font tomber les rayons du soleil. Dans son lit, dans son lit. Il est d'autres rivières, d'autres ruisseaux, d'autres enfants qui leur vie tout entière vivent différemment. Mais cette différence, il ne faut pas en avoir peur, car tous ils sautent et dansent avec le cœur, avec le cœur. La petite rivière, elle est toujours couchée, couchée. La petite rivière, elle peut pas se lever, lever. Mais elle chante.
Dites-moi, ce mouvement vient d'où ?
Nous estimons que les premiers hommes à avoir commencé à organiser la vallée seraient les Celtes entre 300 et 400 ans avant Jésus-Christ. Et donc ce seraient eux qui auraient amené l'origine de ce mouvement qui, décomposé en deux morceaux celtes, voudrait dire la voix de l'eau, ce qui est magnifique et ce qui explique beaucoup de choses, et notamment que tous les siècles qui ont suivi, l'homme a eu besoin de l'eau pour faire tourner les moulins et pour vivre tout simplement.
Et certains disent que ça aurait plutôt une origine qui a un rapport avec des paillettes d'or qui descendaient le long du fjord.
Alors, nous pourrions penser effectivement que ça vienne du latin, via aurea, qui dirait la voix de l'or. Il est d'abord intéressant de se dire que, même si personne n'y a jamais fait fortune, et si le but de la recherche n'est pas là, sur ces terres de l'ère primaire, qui ont entre 400 et 500 millions d'années, l'orpailleur y fait un tour, il est sûr qu'il trouvera d'infimes pépites d'or, car il y en a toujours dans ses couches de schiste. Mais d'autres disent aussi que le reflet du soleil dans cette eau claire et limpide fait penser à la couleur de l'or, ce que je trouve très poétique et qui me ravit autant que les autres explications.
Donc à chacun de choisir l'explication qui lui convient.
Bien sûr, et c'est au fil de ses promenades dans la vallée qu'il pourra en apprécier toute la chaleur.
Alors, Jean-Paul Assemat, vous êtes conteur et je ne résiste pas à l'envie de vous demander de nous raconter une petite histoire sur la vallée du Vior, bien sûr.
Pendant la guerre de Cent Ans, tout un tas de groupes d'Anglais, de mercenaires, ont rôdé dans tout le midi de la France. Le fils, bâtard du seigneur de Mauléon, indisposant son père depuis des années, fut chassé du château avec quelques menues monnaies pour se débrouiller. Il eut tôt fait de sa couquinée avec tout un tas de bandits de grand chemin, et un jour il découvre le site de Pampelonne et le château de Turiès, et de se dire voilà un bel emplacement imprenable, je vais m'y installer. Mais de fait, comment entrer dans le château. Tous ces châteaux de la vallée sont imprenables d'assaut. Les abords sont trop pentus. Il y posta quelques gardes qui lui rapportèrent au bout de quelques jours que tous les matins, entre chien et loup, les filles du château descendaient au Vior pour y puiser de l'eau. Quelle belle peine! On masse les troupes dans les bois. Une petite équipe surveille les servantes. Une fois au bord du Vior, ils les attrapent, ils les déshabillent, ils se déguisent en servantes et les seaux pleins d'eau remontent au château de Turiès. À la poterne, le garde est encore moitié endormi et connaissant le manège, entendant le bruit des sabots, il en trouve la porte. Cette petite équipe arrive à se saisir du corps de garde et à ouvrir les portes du château où se précipite cet affreux bâtard de Moléon. Il s'y installa, il y resta 5 ans. Malgré le siège qu'en firent les albigeois, les castrés ou les troupes de Saint-Antonin Bleuval, il résista, le siège fut levé et il pilla le Ségala jusque dans la région albigeoise pendant 5 ans. Et lui-même racontait à son chroniqueur Froissart, il lui dit « Je ne m'enrichirai jamais autant qu'en Ségala, tant et si bien que j'ai mis de côté tous les ans le prix du dit château. » On ne sait pas ce qu'il est devenu le bâtard de Moléon. Mais je veux croire que dans ces périodes troublées, il sera tombé sur une équipe de bandits plus forte que la sienne et que lui-même y perdit la vie et son âme.
Merci Jean-Paul Assemat. C'était Le Vior et ses trésors, l'histoire d'une passion, une émission proposée par Virginie Pendariès.